Nous arrivons au chapitre 5 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avons rappelé que, à son habitude, avant de nous donner des instructions précises, des préceptes, Paul nous rappelle notre position en Christ. Il nous rappelle pourquoi nous pouvons espérer obéir à ses préceptes. Parce qu'en Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles, nous avons le salut par la grâce, et Dieu nous garde ici parce que il a préparé pour nous des bonnes œuvres, des œuvres bonnes, pour que nous pratiquions ces œuvres. Il nous a révélé le mystère, c'est-à-dire quelque chose qui a été révélé par la parole de Dieu, ce mystère que les païens et les juifs, en fait, sont tous appelés à être une grande famille, à venir à la connaissance de Christ. Et nous l'avons vu en commençant l'étude de Paul, de la lettre aux Hébreux. On ne sait pas si c'est Paul qui est vraiment l'auteur. Dieu existe et Dieu parle. Dieu est évident si on est vraiment honnête avec soi-même intellectuellement. Croire que tout ce que nous pouvons vivre serait le fruit d'un hasard cosmique, au fond du compte, c'est pas vraiment sérieux. Et Dieu, non seulement il existe, mais Dieu parle, Dieu se révèle. Et non seulement il s'est révélé dans les temps passés par les prophètes, mais il s'est révélé aussi par le Fils dans ces derniers temps. Et nous disions que la révélation dans l'Ancien Testament, c'est une révélation progressive. C'est un peu comme pour certains peut-être d'entre nous qui avons vécu à une époque où on entendait les cloches sonner dans la ville. Pour savoir quelle était vraiment l'heure, il fallait attendre un coup à la fois pour savoir juste combien de coups allaient être sonnés. Et c'est seulement quand on avait compté 8 heures, 9 heures, 10 heures, qu'on savait qu'il était 10 heures. En Christ, dans la Nouvelle Alliance, on a une révélation complète. Le Fils est venu et Paul utilise cette révélation qui est arrivée par Jésus-Christ, par les apôtres, et par Jésus-Christ lui-même et par sa vie. On peut maintenant recevoir ses préceptes en se disant que c'est la façon dont Dieu veut que nous vivions pour lui plaire. On va commencer à lire dans le chapitre 5, verset 1. S'il y a un bébé, il y a une petite garderie en haut, n'ayez pas crainte, ils sont très bien traités et ils s'amusent bien, plus mieux que d'être secoués en disant... Si vous le souhaitez. Hein. On lit dans le chapitre 5 à partir du verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On a reçu il y a quelques semaines la famille de Anne et Kevin et leur petit garçon Alexandre qui va bientôt avoir 2 ans. Et ce qui était très drôle, c'est de voir que Alexandre, son papa lui parle en français, bien qu'il soit américain, sa maman lui parle en anglais, et Alexandre peut baragouiner en français. Je ne sais pas si vous avez prévu ça pour Noah, mais c'est drôle de voir qu'il a la facilité, il a la capacité de répéter des phrases en français. Et de toute façon, c'est un petit garçon qui est, et je crois que tous les enfants sont comme ça, qui est capable d'observer avec une grande attention et de répéter les choses. Et l'idée d'être des imitateurs de Dieu, c'est un peu la même chose. C'est de bien regarder Dieu, de bien regarder ce qu'il nous dit et d'être à même de copier ce qu'il fait. Si on devait donner un titre à notre passage ce matin, on pourrait dire simplement « copier Dieu ». Souvent, on vous dit « il ne faut pas copier ». Ça, c'est les étudiants qui n'ont pas appris un sujet, qui regardent un peu de travers sur la feuille à droite ou à gauche pour copier. Ça, c'est mauvais. Mais copier quelqu'un de bien, copier Dieu, c'est un commandement. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Vous êtes, je ne sais pas si vous connaissez, vous appréciez les comédiens qui sont des imitateurs. On est toujours émerveillé de reconnaître dans leur façon de parler des traits de caractère ou des façons particulières dont une personne s'exprime, soit par des mots utilisés, soit par des petits tics, soit par des dodelinements de la tête, comme Sarkozy, qui avant de parler bouge un peu la tête. Et on est toujours émerveillé de ce qu'ils ont remarqué, des choses que nous n'avons pas remarquées. Et c'est l'effet du comique, c'est justement de dire « Oh, c'est formidable, ils ont remarqué ça, je ne l'avais jamais remarqué, mais c'est vraiment ce qui appartient à telle célébrité. » Et de la même façon, pour être de bons imitateurs de Dieu, il faut être de bons observateurs de Dieu. Il faut être à même de chercher, de regarder Dieu agir. Et un bon exemple, c'est de voir comment il agit dans sa parole. C'est aussi d'être sensible à ce qu'il fait autour de nous et même dans nos vies. De voir, et à ce moment-là, on peut être des imitateurs de Christ. Et on n'est pas des imitateurs qui n'ont aucune relation, on est des enfants bien-aimés, qu'on soit des enfants adoptés ou des enfants naturels, il n'est pas question d'avoir des tests d'ADN. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Dieu parce que nous sommes des enfants bien-aimés. Dieu a des grandes caractéristiques qui sont révélées dans la parole. On sait que Dieu est amour. Jean nous dit dans 1 Jean 4:8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et ça, c'est la même présomption que si on connaît Dieu qui est amour, on va être obligatoirement transformé, on va avoir tendance à aimer, à être nous-mêmes amour. Dieu est lumière. Jean nous dit dans 1 Jean 1:5, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. » Nous verrons aussi un autre aspect plus tard, ayant trait au fait que Dieu est vérité. L'Esprit est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Ces caractéristiques de Dieu, si nous sommes de bons imitateurs de Christ, elles vont se retrouver dans nos vies. L'apôtre nous dit de vivre de certaines façons et pour cela il dit de marcher, marcher dans l'amour, marcher comme des enfants de lumière. Au chapitre 2, marcher dans l'amour, au verset 8, marcher dans la lumière, ou une très belle expression, marcher comme des enfants de lumière. Parlons d'abord de cette marche, de cette vie dans l'amour. On a des raisons de marcher dans cet amour parce que non seulement on sait que Dieu est amour, mais on l'a vu, Dieu nous a parlé par le Fils dans ces derniers temps, Dieu nous a aimés et s'est livré lui-même pour lui, lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Notre vie de chrétien doit être caractérisée par l'amour, l'amour entre nous. L'amour, c'est l'essentiel. Paul disait qu'il pourrait avoir toute la connaissance dans ce fameux chapitre de 1 Corinthiens 13. Je vous invite à vous y tourner juste pour quelques instants. Il dit que par rapport à tous les dons spirituels dont on peut avoir le désir, il est bon de désirer des dons spirituels. Il nous dit que même s'il parlait les langues des hommes et des anges, s'il n'a pas l'amour, alors il est comme une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, mais c'est creux, ça mène à rien. Il dit que s'il avait le don de prophétie, s'il connaissait tous les mystères, s'il avait toute la connaissance, s'il avait une foi à même de transporter les montagnes, cette petite foi qui, même si elle avait la taille d'un grain de moutarde, de sénévé, serait capable de déplacer, de dire au mont chaud, va remplir la baie des anges, si ça pouvait se passer, on dirait cette personne a une foi, Dieu agit de façon fantastique. Paul va jusqu'à dire, si je suis capable de faire ces choses, si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis absolument rien. Si j'avais la plus grande compassion pour les gens qui m'entourent, et on sait que c'est une valeur très importante, c'est une valeur qui est reprise par le monde non chrétien, les œuvres humanitaires, si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrais mon corps pour être brûlé pour les autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et puis il continue, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et puis plus loin, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Si nous devons prier pour une chose, c'est le matin, quand nous nous retrouvons, c'est d'avoir cet amour les uns pour les autres que Dieu nous a démontré, nous a montré en Christ, qui nous a aimés au point de se livrer lui-même comme un parfum, comme un sacrifice, une offrande, un sacrifice de bonne odeur. L'amour, c'est la chose la plus importante. Aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et nous pouvons vraiment prier pour que nos cœurs soient attendris. Nous avons une situation dans plusieurs églises en ce moment à Nice où il y a des divisions, où il y a des déchirements. Pourquoi ? Parce que on n'a pas mis l'amour en première place. On a mis d'autres choses en première place. L'amour nous permet de nous demander pardon. L'amour nous permet de nous pardonner. Prions vraiment que nous soyons remplis d'amour les uns pour les autres, pour nos frères en dehors de cette église aussi, pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est ce qui va les attirer. On a souvent tendance à prier pour d'autres choses. On va prier pour avoir la connaissance, avoir une compréhension de la parole, être capable de témoigner avec puissance. Et ces choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais si on espère qu'on peut faire l'impasse sur l'amour, la compassion, l'amour c'est aussi le pardon, c'est demander, c'est accorder le pardon, alors on n'arrivera à rien. L'amour, ça doit caractériser, c'est la première des démarches qui nous dit marcher dans l'amour. Jésus priait le Père dans la fameuse prière de Jean 17. Jean 17. À partir du verset 20, il priait pour les hommes à qui il adressait la parole. Et puis il disait, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Et ça, c'est nous. Si nous connaissons Jésus, si nous croyons en lui, alors Jésus nous dit, « Je prie pour eux, il dit au Père, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous sommes aimé de Dieu. Tant que vous n'avez pas cette conviction intime que Dieu vous aime, qu'il ne peut pas vous aimer davantage, qu'il ne peut pas vous aimer moins, vous ne serez pas à même de donner cet amour. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si vous recevez cet amour, alors vous êtes à même de le manifester et de le donner aux autres. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous en doutez, si vous croyez que c'est un amour conditionnel, si vous pensez qu'il dépend de votre capacité à vivre sans péché, de vivre en respectant tous les préceptes de la Bible sans jamais pécher, dès que vous allez tomber dans le péché, alors l'ennemi va utiliser cette imprécision de votre pensée pour vous faire douter de l'amour de Dieu. Dieu a démontré son amour une bonne fois pour toutes à la croix. Chaque fois que vous voyez une croix, on en voit encore, Dieu merci, dans notre pays, sur les églises, au cou des gens, dans d'autres circonstances. Rappelez-vous, cela signifie que Dieu m'aime. Je suis bien aimé de Dieu. Dieu m'aime de cet amour agapé. C'est le terme, c'est vous êtes agapé et. Vous êtes aimé de cet amour agapé qui n'attend rien en retour, qui attend simplement d'être reçu, et une fois qu'il est reçu, il a cette faculté à déborder et à aller toucher les autres. Et ça, c'est l'invitation de Paul, imiter Dieu Aimez ceux qui ne méritent pas votre amour. Oh, c'est facile d'aimer ceux qui sont aimables, de ceux qui vous apportent quelque chose, de ceux qui sont beaux, de ceux qui ont des ressources, de ceux qui sont agréables à fréquenter parce qu'on pense mieux, on pense plus que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous les fréquentez. Est-ce que vous allez aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux à qui personne ne veut parler après le culte, parce qu'ils sont un peu particuliers, ou ils sont, je dirais, un peu plus particuliers que nous, parce que nous sommes tous bizarres. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a personne parmi nous qui n'est parfait? Et c'est vrai que nos femmes sont particulièrement bizarres, comme le signale Nigel, en plaisantant, bien sûr. Il sait qu'il est très bizarre. Nous sommes tous particuliers et nous devons être prêts à aimer ce qui nous semble pas très aimable ou un peu bizarre ou un peu particulier. Et je suis tellement enthousiasmé lorsque des gens nous disent que ce qui les touche ici, c'est pas la beauté des locaux, c'est pas l'éloquence du pasteur, c'est pas la taille de l'assemblée, mais c'est l'amour qui est manifesté. Et je prie vraiment pour que ça reste au centre de notre vie d'assemblée. Les gens se moquent bien de la beauté des locaux, de la beauté de l'éloquence du pasteur, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'intimité et d'amour mis en pratique. Et ça, de la même façon que le sacrifice de Jésus-Christ était comparable à ces sacrifices de l'Ancien Testament qui, lorsqu'on faisait brûler complètement un animal en holocauste, en signe de consécration complète, ou un sacrifice que l'on faisait en gardant une partie en signe de communion avec Dieu, ces animaux qui brûlaient sur l'autel, devant le tabernacle ou devant le temple, ça dégageait une odeur de barbecue. Et c'était comme une odeur de bon, une bonne odeur, un parfum dans les narines de l'Éternel. Il est dit que nos prières sont aussi comme des offrandes qui montent vers les cieux dans l'Apocalypse. Notre amour, nos prières, nos intercessions sont une façon d'aimer les autres. Là aussi, je vous encourage à participer aux réunions de prière. C'est pas pour ce que vous allez recevoir. Certains disent oui, mais on fait toujours ça. Où il y a tellement de situations difficiles, ça me décourage. Venez aimer les autres en priant pour eux. Priez pour eux dans vos réunions quotidiennes, dans vos moments quotidiens. À chaque instant, vous pouvez prier. C'est un privilège incroyable. Et ça, c'est pour Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. Dieu sourit lorsqu'il voit que nous nous aimons. Je sais que si vous avez des enfants, si vous avez plus d'un enfant, vous êtes heureux lorsque vous les voyez qui s'aiment les uns les autres, qui cherchent à s'aider. Alors je sais que ce n'est pas évident. Je vois Paul et Elisabeth qui regardent leurs deux garçons et qui disent « Ah, le jour ils vont vraiment s'aimer, ça sera merveilleux. » Ça va venir, c'est qu'un passage de l'adolescence. Dieu est amour, marchons dans l'amour. Soyons de bons imitateurs. Prenez l'accent de Dieu. Ce n'est pas un accent anglais ou ce n'est pas un accent belge. C'est l'accent de l'amour. Dieu est lumière. Marchons dans la lumière. La lumière est souvent décrite, utilisée dans la Bible dans un sens figuré, pour un sens moral et un sens spirituel. Mais même physiquement, la lumière chasse les ténèbres. Si vous descendez dans la cave, si vous avez une cave ou un lieu très sombre, vous n'allez pas chasser les ténèbres en prenant un balai à ténèbres et en vous efforçant de bien balayer ce noir qui envahit ce lieu sombre. Non, la seule solution pour faire partir les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Et c'est drôle avec les enfants, je me souviens, on peut leur dire, mais attends, où sont parties les ténèbres? Regarde, il fait nuit, c'est sombre, on ne voit rien. Et hop, j'allume la lumière. Est-ce que les ténèbres sont parties? Alors les enfants me disaient, oh, elles sont sous le lit. Je dis, non, regarde, on peut voir tes jouets là, sous le lit. Là. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. Notre société cherche à chasser les ténèbres en s'attaquant au mal. Et ça ne marche pas. La façon d'améliorer les choses dans notre société, c'est de faire resplendir Jésus-Christ. La solution à tous nos problèmes de société, la solution à tous nos problèmes en tant qu'individu, c'est pas de meilleurs programmes d'instruction, c'est pas plus d'argent, c'est pas plus de ressources, quelles qu'elles soient, c'est connaître et c'est Jésus-Christ, c'est le connaître, c'est le découvrir si on ne le connaît pas, c'est le découvrir, c'est le connaître, c'est l'apprécier, c'est l'aimer, c'est le servir. Et tant que nous essaierons de faire partir les ténèbres au lieu d'allumer la lumière, nous resterons dans les ténèbres. Paul va nous parler de sexualité. C'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de ténèbres. C'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de mauvaises idées reçues. C'est un domaine dans lequel tous les hommes, toutes les femmes ont un combat. Ce n'est pas un problème nouveau. Les gens vivaient à l'époque de Paul dans une société qui était obsédée par le sexe. Au point que certaines femmes d'empereurs romains se prostituaient la nuit pour avoir encore davantage de choses excitantes à vivre. C'était quelque chose, même le grand orateur Cicéron disait qu'on ne pouvait pas reprocher aux jeunes hommes d'aller voir des prostituées, parce que c'était quelque chose qui était naturel, c'était quelque chose qui était bien. On vit dans une société qui n'a pas changé dans ce domaine-là. On a fait des progrès technologique, astronomique, mais au niveau de la moralité, de la lumière spirituelle, de la lumière morale, désolé, mais on n'a pas fait de progrès. Les mêmes choses se passent, les mêmes choses se passent dans l'Église. C'est pour ça que Paul adresse ce sujet. Il s'adresse à des gens qui sont des chrétiens. Et il s'adresse, Jésus s'adresse, Dieu s'adresse à nous qui sommes des chrétiens pour nous remettre en cause que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. L'inconduite, alors suivant les traductions, il va y avoir différentes expressions. L'inconduite, c'est un mot qui est traduit dans les anciennes versions par le mot un peu rébarbatif, un peu pieux de fornication. Le mot en grec, c'est le mot porneia, le mot que vous reconnaissez parce qu'il nous a donné le nom de pornographie, pornographique. C'est tout ce qui consiste dans l'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle, c'est pas simplement les relations sexuelles avec des gens du même sexe, c'est pas des relations sexuelles avec des enfants, des choses qui peuvent encore provoquer des réactions, et quelquefois même plus. La porneia, c'est toute immoralité sexuelle, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Les relations sexuelles avant le mariage, c'est de la porneia. Alors on peut dire que la Bible est restée vieux jeu. Non, c'est notre société qui a décidé de transgresser les instructions que Dieu nous a données. Et cette transgression, elle a un prix. Cette transgression, c'est ce qui nous a amené le sida, c'est ce qui nous amène les maladies vénériennes, c'est ce qui nous amène des familles divisées, c'est ce qui nous amène des familles composées, décomposées, recomposées, c'est ce qui nous amène des enfants qui naissent sans qu'ils connaissent leur papa ou leur maman. C'est la source de beaucoup de nos problèmes. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour nous accabler que Paul nous dit de marcher dans la lumière dans ce domaine. C'est pour notre bien. Dieu nous dit de ne pas nous livrer au péché, pas pour nous empêcher d'avoir de la joie et des plaisirs qu'il nous défend. Ça, c'est ce que l'ennemi, le diable, voudrait nous faire croire. Il nous interdit de pécher pour notre bien, parce qu'il sait que ça nous fait du mal, parce qu'il sait que ça va nous... Pour un moment de plaisir passager, on peut mettre en cause toute une vie, toute l'existence de personnes, leur santé morale, psychique. On sait le mal que les abus sexuels avec les enfants peuvent causer toute une vie dans la vie de ces personnes. L'inconduite, toute forme d'impureté. L'impureté, ce n'est pas seulement dans les actes, c'est aussi dans nos paroles, il va en parler plus loin, dans nos pensées. La cupidité, c'est l'aspect qu'on veut toujours plus. Et ça, c'est chez l'homme, c'est un problème. On a du mal à trouver notre contentement. Notre contentement, on le trouve en Christ. On ne le trouve pas dans différents... Plus d'argent, il n'y a jamais assez d'argent pour être satisfait. Vous allez avoir une augmentation, mais vous allez vous retrouver à la fin du mois, il n'y aura pas encore assez d'argent. Il y a toujours besoin de plus. On a un logement, mais on aimerait bien avoir un logement plus grand. Alors ça peut être justifié si la famille s'agrandit, mais des fois c'est simplement pour avoir plus de prestige. C'est pour avoir une maison plus grande, comme les voisins. Ça peut être d'avoir d'autres expériences sexuelles, plus bizarres, et plus il y a une malsaine curiosité à avoir, connaître plus. La parole nous dit d'être ignorant dans le domaine du péché. Vous n'avez pas à vous instruire dans les perversions qui peuvent se produire. Votre curiosité malsaine de votre vieille nature va peut-être vous donner le désir de savoir ce qui se fait. Et il y a des fois, on apprend des choses, on dit « c'est pas possible ». Mais encore une fois, c'est pas des choses à rechercher, c'est pas des choses dont il faille être curieux. Ces choses ne doivent même pas être mentionnées parmi nous. Des fois, on a des choses qui se passent dans les nouvelles et on dit des gorges chaudes, on en parle, on dit « Oh, vous avez vu ce qui se passe, c'est incroyable, telle vedette, elle a trompé son mari avec ceci, avec... » Non, ce qui convient à des saints, il y a des attitudes qui doivent marquer notre conduite. Encore une fois, si on veut parler avec l'accent de Dieu, il faut rejeter tout ce qui n'est pas son accent. Et l'inconduite, l'immoralité sexuelle, c'est pas du tout le langage divin. Et on le sait. Dans notre langage, pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. C'est souvent un signe que quelqu'un s'est vraiment converti lorsque leur langage se transforme. Et ce langage, il se transforme pas parce qu'on leur dit qu'il faut arrêter de dire ces gros mots, mais parce que le Saint-Esprit qui vient en eux leur fait remarquer que ces gros mots sont inappropriés, ces gros mots n'ajoutent rien à l'expression de leurs idées, mais qu'au contraire, ils font référence à leur vie passée dans l'esclavage au péché. Et je me souviens, la personne qui m'avait conduit au Seigneur, mon beau-frère Mike, qui était un bûcheron que j'avais connu comme quelqu'un toujours en train de boire de la bière, en train de lire des magazines pornographiques, en train de raconter des blagues cochonnes, du jour au lendemain, il avait changé, son langage avait changé. Et il me parlait de Dieu faisant ceci dans sa vie, de Dieu faisant cela. J'étais très soupçonneux de la réalité de ce Dieu, de sa relation, mais je ne pouvais pas nier le fait que son langage avait été transformé. Il n'employait plus d'obscénité. Avant, il disait des gros mots tous les quatre mots, des explétifs, des choses qui n'ajoutaient absolument rien, mais c'était une façon de parler, c'était une façon d'imiter le monde. Et du jour au lendemain, ça s'était transformé. Et encore une fois, lorsqu'on dit, il vous arrive peut-être, il m'arrive des fois, sous le coup de la colère, de la surprise, de dire un gros mot. Et la bonne chose, c'est que je le remarque moi-même, sans que mes enfants aient à me le dire. Ils me le feront remarquer si c'est le cas, si c'est besoin. Mais cette sensibilité, c'est quelque chose de précieux. Laissez l'Esprit Saint vous reprendre et laissez-le vous corriger. Et c'est un témoignage d'une transformation profonde, de plus utiliser de grossièreté, des propos insensés. C'est des propos qui n'ajoutent pas grand-chose à une histoire ou à l'affaire. On a souvent le désir de faire rire les autres, de faire sourire, de montrer qu'on a de l'esprit, de l'humour. Et souvent, on peut utiliser cet humour comme un instrument de péché. On va faire de l'esprit, de l'humour, souvent aux dépens des autres. Et on va faire sourire les gens en disant à la base du mal de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas quelque chose qui doit caractériser notre conduite. Il y a même des fois où on peut aller jusqu'à faire des bouffonneries pour faire rire les autres. Et ça, c'est en fait, ça veut dire que on cherche à s'élever, on cherche à montrer aux autres qu'on est capable d'avoir des remarques drôles. Il y a parmi les jeunes chrétiens, ça, et c'est quelque chose vraiment à proscrire, c'est l'idée que c'est cool de faire de l'humour aux dépens des autres, d'être sarcastique. Le mot sarcasme vient du mot grec sarx, qui veut dire la chair. Un sarcasme, c'est quelque chose qui va faire du mal, qui va comme manger un bout de chair de l'autre. Et on est entouré par une société qui a un culte des guignols de l'info. On aime bien lire les remarques drôles des uns des autres. Mais ce n'est pas quelque chose qui ressemble à Dieu. Dieu nous dit des paroles édifiantes, il nous encourage. Il nous encourage ici à dire des remerciements, des actions de grâce. Est-ce que dans ma vie, je remercie Dieu pour les bonnes choses qu'il me donne? Est-ce que ça devient une habitude? Est-ce que ça devient mon accent? Je connais des personnes, quelle que soit la situation, ils ont toujours un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, même dans l'épreuve. Alors il ne s'agit pas d'être maso et de rechercher des difficultés en disant « loué soit Dieu », mais d'avoir cette confiance qui se manifeste par le remerciement. On peut remercier Dieu pour la réponse aux prières, même si ces réponses sont négatives, parce qu'on sait que Dieu va chercher notre bien, Dieu va nous donner la réponse qui est la meilleure pour nous. Et il nous donne un avertissement très important, sachez-le bien, ou vous le savez bien, en grec ça peut être l'un ou l'autre, si vous le savez, rappelez-le-vous, si vous ne le saviez pas, sachez-le bien, aucun débauché, et c'est le même mot pornos, c'est pas portos comme les mousquetaires, c'est pornos, aucun débauché, aucun impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage, mais dans le royaume du Christ et de Dieu. Si vous persévérez dans ces choses, dans l'immoralité sexuelle, dans la grossièreté, dans les pensées, dans les paroles impures, dans le désir de toujours vouloir davantage, vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'allez pas hériter du royaume du Christ et de Dieu. Et que personne ne vous séduise par de vains discours. On pourra vous parler de la grâce de Dieu, qui est une réalité. Mais la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si vous persévérez dans la rébellion, si vous continuez à vivre comme des enfants du monde, du diable, alors en fait ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Alors peut-être que certains se disent, mais en fait c'est vrai que je continue à faire ces choses, j'ai des péchés habituels, peut-être dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des propos, dans le domaine du commérage, est-ce que je suis vraiment perdu? Lorsqu'il est question de ces choses, c'est des choses que vous faites de façon habituelle sans en être inquiété. Et Paul justement veut vous faire remarquer que ces choses, ne vous habituez pas à les faire sans vous en inquiéter. Si vous êtes vraiment sauvé, alors il est possible que vous tombiez dans le péché. Mais ce péché va vous mettre mal à l'aise. Vous allez avoir des remords, vous allez vous être déçu de vous-même, vous allez dire « je suis encore tombé dans le péché ». Il y a peut-être des péchés habituels, des péchés qui, comme il est dit dans Hébreu, qui vous font tomber facilement. Si vous avez vraiment un sentiment de regret, de repentance, que vous venez à Dieu pour lui demander pardon d'avoir péché et que vous lui demandez l'aide de sa force pour résister, alors vous n'êtes pas exclu du royaume de Dieu. C'est important de bien le comprendre, mais en même temps, si vous ne devez pas tolérer le péché dans vos vies, ne pas le prendre la grâce de Dieu en vain, comme le dit Paul, c'est-à-dire de dire que le métier de Dieu, c'est de pardonner. Donc, quand je continue à pécher, je lui donne l'occasion d'être encore plus Dieu dans son pardon, dans son amour. Non, Paul réagit violemment contre cette pensée. Faites tout ce qui est en votre force et surtout ayez recours à la force de Dieu, ayez recours à la communion fraternelle, demandez à des personnes avec qui vous avez une relation étroite d'être vos vis-à-vis dans ces domaines. Donnez-vous rendez-vous une fois par semaine pour dire où vous en êtes dans ces domaines, si vous avez des domaines qui vous conduisent à pécher régulièrement. Mais si Dieu est en vous, si l'Esprit Saint est en vous, vous ne voulez pas l'attrister. C'était le raisonnement de Paul dans 1 Corinthiens. N'ayez pas des relations avec des prostituées. Dieu est en vous. Est-ce que vous voulez vous associer Dieu à une relation, Jésus-Christ, à une relation avec une prostituée? L'Esprit Saint, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas imaginer un instant d'associer Dieu à vos mauvaises actions. Si vous êtes sauvé, Dieu est en vous par son Esprit Saint. Jésus-Christ est à l'œuvre en vous. Et vous pouvez vous demander, est-ce que je voudrais que Jésus regarde le programme de télé que je vois en ce moment? Est-ce que Jésus voudrait que je dise les choses que je dis en ce moment? Est-ce que Jésus voudrait que je fasse les actions que je suis en train de commettre en ce moment? Dieu nous voit. Il y a des choses, il est dit que un peu plus loin, dans le verset 5, j'y arrive. Il y a des choses qui sont faites en secret, qui sont honteuses. Ce que font les gens en secret, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Est-ce que vous vous livrez à des choses honteuses lorsque vous êtes seul? Dieu est là, Dieu vous voit. toute vérité est mise à nu et terrassée, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Hébreux 4, 13. C'est un avertissement solennel. Nous devons, si nous continuons à faire ces choses, nous devons vraiment demander à Dieu son aide pour changer de fond en comble et croire que grâce à la grâce de Dieu, on peut pécher et attendre qu'il nous pardonne. C'est être séduit par de vains discours, c'est se laisser appâter par des choses qui sont fausses, qui sont vides. La colère de Dieu va venir sur ceux qui sont caractérisés par la rébellion. Les fils de la rébellion. L'homme est un rebelle. Il suffit de voir vos enfants. Dès que vous avez un enfant, vous savez qu'un enfant est rebelle. Même s'il est mignon tout plein, à croquer, c'est un rebelle. C'est pour ça qu'il pique des colères terribles lorsqu'il n'est pas nourri, lorsqu'il veut être changé. Notre vieille nature fait que nous sommes des rebelles et nous n'avons rien à faire avec ces gens. Nos fréquentations peuvent vraiment nous détruire. Est-ce que vous avez des fréquentations qui ne sont pas bonnes, des gens? Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on doit couper tous les ponts et se retrouver qu'entre chrétiens. Il est absolument vital d'avoir des relations avec les non-chrétiens, de pouvoir être un témoignage auprès d'eux, de les aimer, de leur parler de l'amour de Dieu. Mais il y a des fréquentations qu'il vaut mieux mettre de côté, qu'il vaut mieux rompre si elles ont tendance à vous éloigner de Christ. Elles ont tendance à vous éloigner de sa parole, de la communion fraternelle. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. N'ayez aucune part avec eux. Et puis il y a ce contraste, verset 8, « Autrefois vous étiez dans les ténèbres, nous valions pas mieux que les autres. » Et c'est toujours quelque chose qui m'encourage de penser à des personnes qui, moi-même, il y a un moment où je vivais dans les ténèbres. Alors, je n'étais pas le pire des débauchés, mais j'avais des choses vraiment qui étaient contraires à ces préceptes. Beaucoup de choses peut-être dans mes pensées ou en secret, mais c'était des choses contraires à l'esprit, à l'accent de Dieu. Et maintenant, on est passé dans la lumière. Et je me réjouis toujours parce que ça m'encourage à voir chaque personne qui ne connaît pas encore le Seigneur comme étant capable d'être un trophée pour le Seigneur. Parmi nous, il y a des gens que j'ai connus avant qu'ils ne soient chrétiens. Et c'est merveilleux de voir comment ils ont été transformés. Il y a des fois, lorsqu'on parle aux non-chrétiens, on a l'impression que c'est impossible de voir une conversion. Ils sont tellement loin de Dieu, ils sont tellement bien dans leur incrédulité. Et puis, si on est fidèle pour témoigner de cet amour, Dieu peut faire ce miracle, le plus grand des miracles, la conversion. Et ces personnes deviennent des enfants de lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Il est dit que Jésus nous disait qu'il était la lumière du monde. Et il nous invitait bien sûr à marcher dans la lumière. Et il nous disait même dans les évangiles que maintenant vous êtes la lumière du monde. Et que si nous sommes la lumière du monde, on doit briller pour le Seigneur. Ici, il nous dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quel beau titre. Au lieu d'être des enfants de la rébellion, on est des enfants de lumière. Et il mélange un peu les métaphores. On sent quand Paul s'énerve ou s'exalte un peu, il mélange les métaphores. Il va parler de fruits et de lumière. Il parle du fruit de la lumière. Il parle des plantes et du monde de la physique, de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, c'est vraiment l'amour en action. La bonté, ce n'est pas de sourire béatement en disant « Oui, le Seigneur vous aime ». C'est de le prouver en aidant ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont en contact avec nous par des actions concrètes, de l'aide pratique. Jacques disait, si vos paroles, votre amour, votre foi restent théoriques, alors permettez-moi de douter de votre foi. S'il y a le soleil, si le Jésus est en nous, alors il va y avoir des rayons, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir une vérité qui va se manifester concrètement. La justice, ça consiste à faire ce que sa parole nous dit, donc suivre ses préceptes. C'est faire ce qui est bien, ce qui est bon pour Dieu et aussi pour les autres. La vérité, c'est d'être sincère, authentique, honnête. C'est ce qui est contraire à l'hypocrisie. Et encore une fois, l'hypocrisie, ça peut être l'hypocrisie des gens qui veulent se faire passer pour plus spirituels qu'ils ne sont. Ceux qui vont utiliser les paroles de la Bible pour vous remettre en place ou pour vous donner l'impression qu'ils ont tout maîtrisé. Mais encore une fois, l'hypocrisie, ça peut, parmi les jeunes, ça peut être faire semblant d'être cool, d'être hip, d'être à la mode. Soyez vous-même. Souvent, les jeunes sont ceux qui sont les plus conformistes. On veut être anticonformiste quand on est jeune, mais entre jeunes, on est les plus conformistes qui soient. Au point que si on veut faire changer la mode chez les jeunes, il suffit que les plus anciens adoptent la même mode. Ah non, si mon père porte des pantalons un peu trop larges, alors moi je vais me remettre à porter des pantalons serrés ou des corsaires. Tous, on veut être pareil au groupe. Ça peut être source de non-vérité. Et puis, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Regardez dans votre vie ce qui va plaire à Dieu. Paul nous disait dans la lettre aux Philippiens que l'on doit se soucier de ce qui est beau, de ce qui est bon. Il disait dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À quoi est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez à des choses pures, à des choses belles, à des choses dignes de louange, à des choses honorables, à des choses aimables? Ou est-ce que vous penchez à des choses qui ne sont pas des choses digne d'enfants de lumière? Est-ce que vous seriez prêt à laisser vos pensées apparaître sur grand écran devant toute l'église? Plusieurs d'entre nous sourions parce qu'on se dit, oh là là, ça serait terrible de savoir que mes pensées secrètes puissent être connues. Peut-être mes pensées, ça peut non seulement être des pensées d'impureté sexuelle, mais ça peut être aussi des pensées de méchanceté, ça peut être des pensées de fausse motivation, de motivation de jalousie, ça pourrait être... On doit être transparent et on doit être agréable au Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Les ténèbres, ça donne rien de bon. Au point que même physiquement, dans les endroits où il y a du crime, on le combat en mettant beaucoup de lumière sous les ponts. On met maintenant des lumières bleues. Apparemment, c'est pour que les gens ne soient pas capables de se shooter. Parce qu'avec la lumière bleue, ils ne peuvent pas voir où sont leurs veines. Mais la lumière chasse les ténèbres, encore une fois. Ce que les gens font en secret, ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Tout ce qui apparaît est lumière. La lumière met tout à jour et tout ce qui se montre, montre la lumière. Et puis, on termine avec ce verset 14. Tout ce qui apparaît est lumière, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi ». Alors on pense souvent, lorsque Paul cite un passage en disant « il est dit », on pense que c'est un verset qu'il a tiré de l'Ancien Testament, ou c'est un passage d'un poète connu. En fait, personne ne sait vraiment d'où vient exactement ce texte, qui est une bonne devise. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. On peut penser aussi qu'il a regroupé sous l'influence du Saint-Esprit. C'est une phrase qui est maintenant inspirée parce que Paul l'a utilisée. Il a utilisé plusieurs passages, notamment dans le prophète Ésaïe, comme Ésaïe 61. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » D'autres passages, 26-19 et 51-19, qui font allusion à ce besoin de se réveiller et de ne pas dormir. Le plus terrible, c'est de s'endormir dans les ténèbres. Et Dieu, par l'apôtre Paul, par ce texte, aujourd'hui, veut nous réveiller. Le pire, c'est de ne pas réaliser où on en est. De ne pas réaliser qu'on ne marche pas dans l'amour, de ne pas réaliser qu'on ne marche pas dans la lumière, et de continuer notre vie en pensant parce qu'on vient une fois de temps en temps à l'église, ou on est régulier, ou qu'on a une Bible, ou qu'on prie de temps en temps pour demander l'aide du Seigneur, penser qu'on est assuré de son amour. Soit nous sommes chrétiens, soit nous sommes sauvés, alors ça se manifeste dans notre vie, soit il n'y a pas de manifestation, et à ce moment-là, on peut vraiment se remettre en question. Et la remise en question, c'est une chose qui est salutaire. L'équipe de France, on devait en parler aujourd'hui. Ils s'endormaient, ils pensaient qu'ils étaient les plus forts. L'Argentine, bof, on n'en fera qu'une bouchée. Ils se sont pris une grande déroute et ils se sont remis en question. Grâce à ça, ils ont pu prendre une équipe qui, elle aussi, était endormie sur sa réputation, sur ses lauriers, qui pensaient qu'ils allaient faire qu'une bouchée. Maintenant, prions qu'ils aillent jusqu'au bout. Non. Bravo aux Anglais aussi, qui ont surpris une équipe du Sud. Il faut se réveiller de notre état de penser que tout va bien. Se remettre en question, c'est vital. C'est vital en rugby, à combien plus dans le domaine spirituel. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole. Et nous savons que parmi nous, tu as touché certaines personnes avec un sujet ou un autre, Seigneur, et nous voulons te demander de nous remettre en question, Seigneur, de nous aider à nous remettre en question. Donne-nous d'être vraiment sensibles à ton Esprit Saint, de ne pas nous endurcir, de ne pas nous tromper par de fausses espérances d'une grâce qui serait donnée à tous ceux, quelle que soit leur vie, Seigneur. Seigneur, touche-nous, transforme-nous, que ta parole accomplisse l'effet pour lequel tu l'as envoyée, Seigneur.